Le Capital, troisième section, chapitre grand 9. Le taux de la plus-value. Grand 1. Le degré d'exploitation de la force de travail. La plus-value que le capital avancé grand C a engendrée dans le cours de la production se présente d'abord comme excédent de la valeur du produit sur la valeur de ses éléments. Le capital grand C se décompose en deux parties. Une somme d'argent petit c, capital constant entre parenthèses, qui est dépensée pour les moyens de production, et une autre somme d'argent petit v, capital variable entre parenthèses, qui est dépensée en force de travail. À l'origine, donc, grand C égale petit c plus petit v. Ou, pour prendre un exemple, le capital avancé de 500 livres sterling égale 410 livres sterling, soit petit c, plus 90 livres sterling, soit petit v. L'opération productive terminée, on a pour résultat une marchandise dont la valeur égale petit c plus petit v, plus petit p, ouvrez la parenthèse, petit p étant la plus-value, fermez la parenthèse, soit 410 livres sterling plus 90 livres sterling plus 90 livres sterling, ou 410 livres sterling pour petit c, plus 90 livres sterling pour petit v, plus 90 livres sterling pour petit p. Le capital primitif grand C s'est transformé en grand C prime de 500 en 590 livres sterling. La différence entre les deux égale petit p, une plus-value de 90. La valeur des éléments de production étant égale à la valeur du capital avancé, c'est une vraie tautologie de dire que l'excédent de la valeur du produit sur la valeur de ses éléments est égal au surcroît du capital avancé ou à la plus-value produite. Cette tautologie exige cependant un examen plus approfondi. Ce qui est comparé avec la valeur du produit, c'est la valeur des éléments de production consommés dans sa formation. Mais nous avons vu que cette partie du capital constant employé, qui consiste en instruments de travail, ne transmet qu'une fraction de sa valeur au produit, tandis que l'autre fraction persiste sous son ancienne forme. Comme celle-ci ne joue aucun rôle dans la formation de la valeur, il faut en faire complètement abstraction. Son entrée en ligne de compte ne changerait rien. Supposons que petit c égale 410 livres sterling, soit 312 livres sterling pour les matières premières, 44 livres sterling pour matières auxiliaires et 50 livres sterling pour usure de la machine. Mais que la valeur de tout l'appareil mécanique employé réellement se monte à 1054 livres sterling. Nous ne comptons comme avance faite que la valeur de 54 livres sterling perdue par la machine dans son fonctionnement est transmise par cela même au produit. Si nous voulions compter les 1000 livres sterling qui continuent à exister sous leur ancienne forme, comme machine à vapeur, etc., il nous faudrait les compter doublement, du côté de la valeur avancée et du côté du produit obtenu. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Si nous comptons la valeur du capital fixe employé comme faisant partie des avances, nous devons compter à la fin de l'année la valeur persistante de ce capital comme faisant partie de ce qui nous revient annuellement. Fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse. Malthus, Prince of Paul Econ, deuxième édite, London, 1836, page 269, Fermez la parenthèse. Fin de la note de bas de page. Donc, nous ne comptons comme avance faite que la valeur de 54 livres sterling perdue par la machine dans son fonctionnement et transmise par cela même au produit. Si nous voulions compter les 1000 livres sterling qui continuent à exister sous leur ancienne forme, comme machine à vapeur, etc., il nous faudrait les compter doublement, du côté de la valeur avancée et du côté du produit obtenu. Nous obtiendrions ainsi 1500 livres sterling et 1590 livres sterling, de sorte que la plus-value serait, après comme avant, de 90 livres sterling. Sous le nom de capital constant avancé pour la production de la valeur, et c'est cela dont il s'agit ici, nous ne comprenons donc jamais que la valeur des moyens consommés dans le cours de la production. Ceci admis, revenons à la formule grand C égale petit c plus petit v, qui est devenue grand C prime égale petit c plus petit v plus petit p, de sorte que grand C s'est transformé en grand C prime. On sait que la valeur du capital constant ne fait que réapparaître dans le produit. La valeur réellement nouvelle, engendrée dans le cours de la production même, est donc différente de la valeur du produit obtenu. Elle n'est pas, comme il semblerait au premier coup d'œil, petit c plus petit v plus petit p, ou 410 livres sterling pour petit c plus 90 livres sterling plus petit v plus 90 livres sterling pour petit p. Mais petit v plus petit p ou 90 livres sterling pour petit v plus 90 livres sterling pour petit p. Elle n'est pas de 590, mais 180 livres sterling. Si le capital constant petit c égalait zéro, en d'autres termes, s'il y avait des branches d'industrie où le capitaliste n'aurait à employer aucun moyen de production créé par le travail, ni matières premières, ni matières auxiliaires, ni instruments, mais seulement la force de travail et des matériaux fournis par la nature, aucune portion constante de valeur ne pourrait être transmise au produit. Cet élément de la valeur du produit, dans notre exemple 410 livres sterling, serait éliminé, mais la valeur produite de 180 livres sterling, laquelle contient 90 livres sterling de plus-value, serait tout aussi grande que si petit c représentait une valeur incommensurable. Nous aurions grand C égale 0 plus petit v égale petit v. Et grand C prime, ouvrez la parenthèse, le capital accru de la plus-value, fermez la parenthèse, égale petit v plus petit p. Grand C prime moins grand C, après comme avant, égale petit p. Si, au contraire, petit p égalait zéro, en d'autres termes, si la force de travail, dont la valeur est avancée dans le capital variable, ne produisait que son équivalent, alors grand C égale petit c plus petit v, et grand C prime, ouvrez la parenthèse, la valeur du produit, fermez la parenthèse, égale petit c plus petit v plus zéro. Par conséquent, grand C égale grand C prime. Le capital avancé ne se serait point accru. Nous savons déjà que la plus-value est une simple conséquence du changement de valeur qui affecte petit v. Ouvrez la parenthèse, la partie du capital transformée en force de travail. Fermez la parenthèse. Que par conséquent, petit v plus petit p égale petit v plus delta de petit v. Entre parenthèses, petit v plus un incrément de petit v. Fermez la parenthèse. Mais le caractère réel de ce changement de valeur ne perce pas à première vue. Cela provient de ce que, par suite de l'accroissement de son élément variable, le total du capital avancé s'accroît aussi. Il était 500 et il devient 590. L'analyse pure exige donc qu'il soit fait abstraction de cette partie de la valeur du produit où ne réapparaît que la valeur du capital constant et que l'on pose ce dernier égal 0. C'est l'application d'une loi mathématique employée toutes les fois qu'on opère avec des quantités variables et des quantités constantes et que la quantité constante n'est liée à la variable que par addition ou soustraction. Une autre difficulté provient de la forme primitive du capital variable. Ainsi, dans l'exemple précédent, C' égale 410 livres sterling de capital constant, 90 livres sterling de capital variable et 90 livres sterling de plus-value. Or, 90 livres sterling sont une grandeur donnée, constante, qu'il semble absurde de traiter comme variable. Mais 90 livres sterling soit petit v ou 90 livres sterling de capital variable ne sont qu'un symbole pour la marche que suit cette valeur. En premier lieu, deux valeurs constantes sont échangées l'une contre l'autre. Un capital de 90 livres sterling contre une force de travail qui vaut aussi 90 livres sterling. Cependant, dans le cours de la production, les 90 livres sterling avancés viennent d'être remplacés, non par la valeur de la force de travail, mais par son mouvement. Le travail mort par le travail vivant, une grandeur fixe par une grandeur fluide, une constante par une variable. Le résultat est la reproduction de petit v plus un incrément de petit v. Du point de vue de la production capitaliste, tout cet ensemble est un mouvement spontané, automatique, de la valeur capitale transformée en force de travail. C'est à elle que le procès complet et son résultat sont attribués. Si donc la formule, ouvrez les guillemets, 90 livres sterling de capital variable, fermez les guillemets, laquelle exprime une valeur qui fait des petits, semble contradictoire, elle n'exprime qu'une contradiction immanente à la production capitaliste. Il peut paraître étrange, au premier coup d'œil, que l'on pose ainsi le capital constant égal à zéro. Mais c'est là une opération que l'on fait tous les jours dans la vie ordinaire. Quelqu'un veut-il calculer le bénéfice obtenu par la Grande-Bretagne dans l'industrie cotonnière? Il commence par éliminer le prix du coton payé aux États-Unis, à l'Inde, à l'Égypte, etc. C'est-à-dire il pose égal à zéro la partie du capital qui ne fait que réapparaître dans la valeur du produit. Assurément, le rapport de la plus-value, non seulement avec la partie du capital d'où elle provient immédiatement et dont elle représente le changement de valeur, mais encore avec le total du capital avancé, a une grande importance économique. Aussi traiterons-nous cette question avec tous les détails dans le troisième livre. Pour qu'une partie du capital gagne en valeur par sa transformation en force de travail, il faut qu'une autre partie du capital soit déjà transformée en moyen de production. Pour que le capital variable fonctionne, il faut qu'un capital constant soit avancé dans des proportions correspondantes, d'après le caractère technique de l'entreprise. Mais parce que, dans toute manipulation chimique, on emploie des corps nus et d'autres vases, il ne s'ensuit pourtant pas que dans l'analyse on ne fasse abstraction de ces ustensiles. Dès que l'on examine la création de valeur et la modification de valeur purement en elle-même, les moyens de production, ces représentants matériels du capital constant, ne fournissent que la matière dans laquelle la force fluide, créatrice de valeur, peut se figer. Coton ou fer, peu importe donc la nature et la valeur de cette matière. Elle doit tout simplement se trouver là en quantité suffisante pour pouvoir absorber le travail à dépenser dans le cours de la production. Cette quantité de matière, une fois donnée, que sa valeur monte ou baisse, ou même qu'elle n'ait aucune valeur, comme la terre vierge et la mer, la création de valeur et son changement de grandeur n'en seront pas affectés. Note de bas de page. Il est évident, comme dit Lucrèce, ouvrez les guillemets, nil posse creari de nihilo, fermez les guillemets, que rien ne peut être créé de rien. Création de valeur et transformation de force de travail en travail. De son côté, la force de travail est avant tout un ensemble de substances naturelles transformées en organismes humains. Fin de la note de bas de page. Donc, cette quantité de matière, note la donneuse de voix, celle des moyens de production, fin de la note de la donneuse de voix, une fois donnée, que sa valeur monte ou baisse, ou même qu'elle n'ait aucune valeur, comme la terre vierge et la mer, la création de valeur et son changement de grandeur n'en seront pas affectés. Nous posons donc tout d'abord la partie constante du capital égale à zéro. Le capital avancé petit c plus petit v se réduit conséquemment à petit v. Et la valeur du produit petit c plus petit v plus petit p à la valeur produite petit v plus petit p. Si l'on admet que celle-ci égale 180 livres sterling, dans lequel se manifeste le travail qui s'écoule pendant toute la durée de la production, il nous faut soustraire la valeur du capital variable, soit 90 livres sterling, pour obtenir la plus-value de 90 livres sterling. Ces 90 livres sterling expriment ici la grandeur absolue de la plus-value produite. Pour ce qui est de sa grandeur proportionnelle, c'est-à-dire du rapport suivant lequel le capital variable a gagné en valeur, elle est évidemment déterminée par le rapport de la plus-value au capital variable et s'exprime par petit p sur petit v. Note de la donneuse de voix, ou petit p divisé par petit v, fin de la note de la donneuse de voix. Dans l'exemple qui précède, elle est donc 90 sur 90 égale 100%. Cette grandeur proportionnelle est ce que nous appelons taux de la plus-value. Note de bas de page. On dit de même taux du profit, taux de l'intérêt, etc. Ouvrez la parenthèse. En anglais, rate of profit, etc. Fermez la parenthèse. On verra dans le livre Grand 3 que le taux du profit est facile à déterminer dès que l'on connaît les lois de la plus-value. Par la voie opposée, on ne trouve ni l'un ni l'autre. Fin de la note de bas de page. Donc, pour ce qui est de la grandeur proportionnelle, ouvrez les crochets, de la plus-value produite, fermez les crochets, c'est-à-dire du rapport suivant lequel le capital variable a gagné en valeur, elle est évidemment déterminée par le rapport de la plus-value au capital variable et s'exprime par petit p sur petit v. Dans l'exemple qui précède, elle est donc 90 sur 90 égale 100%. Cette grandeur proportionnelle est ce que nous appelons taux de la plus-value. Nous avons vu que l'ouvrier, pendant une partie du temps qu'exige une opération productive donnée, ne produit que la valeur de sa force de travail, c'est-à-dire la valeur des subsistances nécessaires à son entretien. Le milieu dans lequel il produit étant organisé par la division spontanée du travail social, il produit sa subsistance non pas directement, mais sous la forme d'une marchandise particulière, sous la forme de filets, par exemple, dont la valeur égale celle de ses moyens de subsistance, ou de l'argent avec lequel il les achète. La partie de sa journée de travail qu'il y emploie est plus ou moins grande, suivant la valeur moyenne de sa subsistance journalière ou le temps de travail moyen exigé chaque jour pour la produire. Lors même qu'il ne travaillerait pas pour le capitaliste, mais seulement pour lui-même, il devrait, toutes circonstances restant égales, travailler en moyenne, après comme avant, la même partie aliquote du jour pour gagner sa vie. Mais, comme dans la partie du jour où il produit la valeur quotidienne de sa force de travail, il ne produit que l'équivalent d'une valeur déjà payée par le capitaliste, et ne fait ainsi que compenser une valeur par une autre, cette production de valeur n'est en fait qu'une simple reproduction. Je nomme donc temps de travail nécessaire la partie de la journée où cette reproduction s'accomplit, et travail nécessaire le travail dépensé pendant ce temps. Note de bas de page. Nous avons employé jusqu'ici le mot, ouvrez les guillemets, temps de travail nécessaire, fermez les guillemets, pour désigner le temps de travail socialement nécessaire à la production d'une marchandise quelconque. Désormais, nous l'emploierons aussi pour désigner le temps de travail nécessaire à la production de la marchandise spéciale, force de travail. L'usage des mêmes termes techniques dans un sens différent a certes des inconvénients. Mais cela ne peut être évité dans aucune science. Que l'on compare par exemple les parties supérieures et élémentaires des mathématiques. Fin de la note de bas de page. Donc, je nomme donc temps de travail nécessaire la partie de la journée où cette reproduction s'accomplit, et travail nécessaire, le travail dépensé pendant ce temps. Nécessaire pour le travailleur parce qu'il est indépendant de la forme sociale de son travail. Nécessaire pour le capital et le monde capitaliste parce que ce monde a pour base l'existence du travailleur. La période d'activité qui dépasse les bornes du travail nécessaire coûte, il est vrai, du travail à l'ouvrier, une dépense de force, mais ne forme aucune valeur pour lui. Elle forme une plus-value qui a pour le capitaliste tous les charmes d'une création ex nihilo. Je nomme cette partie de la journée de travail temps extra et le travail dépensé en elle sur-travail. S'il est d'une importance décisive pour l'entendement de la valeur en général de ne voir en elle qu'une simple coagulation de temps de travail, que du travail réalisé, il est d'une égale importance pour l'entendement de la plus-value de la comprendre comme une simple coagulation de temps de travail extra, comme du sur-travail réalisé. Les différentes formes économiques revêtues par la société, l'esclavage par exemple, et le salariat, ne se distinguent que par le mode dont ce surtravail est imposé et extorqué aux producteurs immédiats, à l'ouvrier. Note de bas de page. Maître Wilhelm Thucydides Roscher est vraiment impayable. Il découvre que si la formation d'une plus-value ou d'un produit net et l'accumulation qui en résulte sont dues aujourd'hui à l'épargne et à l'abstinence du capitaliste, ce qui l'autorise à, ouvrez les guillemets, exiger des intérêts, fermez les guillemets, ouvrez les guillemets, dans un état inférieur de civilisation, au contraire, ce sont les faibles qui sont contraints par les forts à économiser et à s'abstenir. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse, l'Occite, page 78, fermez la parenthèse. À s'abstenir de travailler? Ou à économiser un excédent de produits qui n'existe pas? Ce qui entraîne les rocheurs et consorts à traiter comme raison d'être de la plus-value les raisons plus ou moins plausibles par lesquelles le capitaliste cherche à justifier son appropriation de toute plus-value créée, c'est évidemment, outre une ignorance candide, l'appréhension que leur cause toute analyse consciencieuse et leur crainte d'arriver malgré eux à un résultat qui ne satisferait pas la police. Fin de la note de bas de page. Donc, les différentes formes économiques revêtues par la société, l'esclavage par exemple, et le salariat, ne se distinguent que par le mode dont ce surtravail est imposé et extorqué au producteur immédiat, à l'ouvrier. De ce fait, que la valeur du capital variable égale la valeur de la force de travail qu'il achète, que la valeur de cette force de travail détermine la partie nécessaire de la journée de travail et que la plus-value de son côté est déterminée par la partie extra de cette même journée, il suit que la plus-value est au capital variable ce qu'est le surtravail au travail nécessaire, ou le taux de plus-value petit p sur petit v égale surtravail sur travail nécessaire. Les deux proportions présentent le même rapport sous une forme différente. Une fois sous forme de travail réalisé, une autre fois sous forme de travail en mouvement. Le taux de la plus-value est donc l'expression exacte du degré d'exploitation de la force de travail par le capital ou du travailleur par le capitaliste. Note de bas de page. Le taux de la plus-value n'exprime pas la grandeur absolue de l'exploitation, bien qu'il en exprime exactement le degré. Supposons par exemple que le travail nécessaire égale 5 heures et le surtravail égale 5 heures également. Le degré d'exploitation est alors de 100% et la grandeur absolue de l'exploitation est de 5 heures. Si au contraire, le travail nécessaire égale 6 heures et que le surtravail égale 6 heures, le degré d'exploitation reste le même, c'est-à-dire de 100%. Mais la grandeur de l'exploitation s'est accrue de 20%, de 5 à 6 heures. Fin de la note de bas de page. Donc, le taux de la plus-value est donc l'expression exacte du degré d'exploitation de la force de travail par le capital ou du travailleur par le capitaliste. D'après notre supposition, la valeur du produit égale 410 livres sterling pour petit c plus 90 livres sterling pour petit v plus 90 livres sterling pour petit p. Le capital avancé égale 500 livres sterling. De ce que la plus-value égale 90 livres sterling et le capital avancé égale 500 livres sterling, on pourrait conclure, d'après le mode ordinaire de calcul, que le taux de la plus-value ouvrez la parenthèse, que l'on confond avec le taux du profit, fermez la parenthèse, égale 18%, chiffre dont l'infériorité relative remplirait d'émotion le sieur Carey et les autres harmonistes du même calibre. Mais en réalité, le taux de la plus-value égale non pas petit p sur grand C ou petit p sur ensemble petit c plus petit v, mais petit p sur petit v. Il est non pas 90 sur 500, mais 90 sur 90 égale 100%, plus de 5 fois le degré d'exploitation apparent. Bien que, dans le cas donné, nous ne connaissions ni la grandeur absolue de la journée de travail, ni la période des opérations, entre parenthèses, jour, semaine, etc., fermez la parenthèse, ni enfin le nombre des travailleurs que le capital variable de 90 livres sterling met en mouvement simultanément. Néanmoins, le taux de la plus-value petit p sur petit v, par sa convertibilité dans l'autre formule sur travail sur travail nécessaire, note de la donneuse de voix où sur travail divisé par le travail nécessaire, fin de la note de la donneuse de voix, nous montre exactement le rapport des deux parties constituantes de la journée de travail l'une avec l'autre. Ce rapport est 100%. L'ouvrier a donc travaillé une moitié du jour pour lui-même et l'autre moitié pour le capitaliste. Telle est donc, en résumé, la méthode à employer pour le calcul du taux de la plus-value. Nous prenons la valeur entière du produit et nous posons égale à zéro la valeur du capital constant qui ne fait qu'y reparaître. La somme de valeurs qui reste est la seule valeur réellement engendrée pendant la production de la marchandise. Si la plus-value est donnée, il nous faut la soustraire de cette somme pour trouver le capital variable. C'est l'inverse qui a lieu si ce dernier est donné et que l'on cherche la plus-value. Tous les deux sont-ils donnés ? Il ne reste plus que l'opération finale, le calcul de petit p sur petit v prime, du rapport de la plus-value au capital variable. Si simple que soit cette méthode, il convient d'y exercer le lecteur par quelques exemples qui lui en faciliteront l'application. Entrons d'abord dans une filature. Les données suivantes appartiennent à l'année 1871 et m'ont été fournies par le fabricant lui-même. La fabrique met en mouvement 10 000 broches, file avec du coton américain des filets numéro 32 et produit chaque semaine une livre de filets par broche. Le déchet du coton se monte à 6%. Ce sont donc par semaine 10 600 livres de coton que le travail transforme en 10 000 livres de filets et 600 livres de déchets. En avril 1871, ce coton coûtait 7 pence 3 quarts par livre et conséquemment pour 10 600 livres, la somme ronde de 342 livres sterling. Les 10 000 broches, y compris la machine à filer et la machine à vapeur, coûtent une livre sterling la pièce, c'est-à-dire 10 000 livres sterling. Leur usure se monte à 10%, égale 1 000 livres sterling, ou chaque semaine 20 livres sterling. La location des bâtiments est de 300 livres sterling, ou de 6 livres sterling par semaine. Le charbon, ouvrez la parenthèse, 4 livres par heure et par force de cheval, sur une force de 100 chevaux donnée par l'indicateur. Note de bas de page. Il est à remarquer qu'en Angleterre, l'ancienne force de cheval était calculée d'après le diamètre du cylindre, et que la nouvelle, au contraire, se calcule sur la force réelle que montre l'indicateur. Fin de la note de bas de page. Donc, le charbon, ouvrez la parenthèse, 4 livres par heure et par force de cheval, sur une force de 100 chevaux donnée par l'indicateur, et 60 heures par semaine, y compris le chauffage du local, fermez la parenthèse. Le charbon donc atteint par semaine le chiffre de 11 tonnes, et à 8 shillings 6 pence par tonne, coûte chaque semaine 4 livres sterling 10 shillings. La consommation par semaine est également pour le gaz de 1 livre sterling, pour l'huile de 4 livres sterling 10 shillings, pour toutes les matières auxiliaires de 10 livres sterling. La portion de valeur constante, par conséquent, égale 378 livres sterling. Puisqu'elle ne joue aucun rôle dans la formation de la valeur hebdomadaire, nous la posons égale à zéro. Le salaire des ouvriers se monte à 52 livres sterling par semaine. Le prix des filets à 12 pence un quart la livre est, pour 10 000 livres, de 510 livres sterling. La valeur produite chaque semaine est par conséquent égale à 510 livres sterling moins 378 livres sterling ou égale 132 livres sterling. Si maintenant nous en déduisons le capital variable, ouvrez la parenthèse, salaire des ouvriers, fermez la parenthèse, égale à 52 livres sterling, il reste une plus-value de 80 livres sterling. Le taux de la plus-value est donc égal à 80 sur 52 égale 153/11/13. Pour une journée de travail moyenne de 10 heures par conséquent, le travail nécessaire est égal à 3h31/35, note de la donneuse de voix, 31/35, fin de la note de la donneuse de voix, et le surtravail égale 6h02/33, note de la donneuse de voix, 2/33, fin de la note de la donneuse de voix. Voici un autre calcul, très défectueux, il est vrai, parce qu'il y manque plusieurs données, mais suffisant pour notre but. Nous empruntons les faits à un livre de Jacob à propos des lois sur les céréales, 1815 entre parenthèses. Le prix du froment est de 80 shillings par quart, ouvrez la parenthèse, 8 boisseaux, fermez la parenthèse. Et le rendement moyen de l'arpent est de 22 boisseaux, de sorte que l'arpent rapporte 11 livres sterling. Production de valeur par arpent. D'un côté, semence, froment entre parenthèses, 1 livre sterling 9 shillings. Engrais, 2 livres sterling 10 shillings. Salaire, 3 livres sterling 10 shillings. Somme, 7 livres sterling 9 shillings. De l'autre côté, dîme, taxe, 1 livre sterling 1 shilling. Rente foncière, 1 livre sterling 8 shillings. Profit du fermier et intérêt, 1 livre sterling 2 shillings. Somme, 3 livres sterling 11 shillings. La plus-value, toujours en admettant que le prix du produit est égal à sa valeur, se trouve ici répartie entre diverses rubriques, profit, intérêt, dîme, etc. Ces rubriques nous étant indifférentes, nous les additionnons toutes ensemble et obtenons ainsi une plus-value de 3 livres sterling 11 shillings. Quant aux 3 livres sterling 19 shillings pour semences et engrais, nous les posons égales à zéro comme partie constante du capital. Reste le capital variable avancé de 3 livres sterling 10 shillings, à la place duquel une valeur nouvelle de 3 livres sterling 10 shillings plus 3 livres sterling 11 shillings a été produite. Le taux de la plus-value petit p sur petit v égale 3 livres sterling 11 shillings sur 3 livres sterling 10 shillings égale plus de 100%. Le laboureur emploie donc plus de la moitié de sa journée de travail à la production d'une plus-value que diverses personnes se partagent entre elles sous divers prétextes. Note de bas de page. Ces chiffres n'ont de valeur qu'à titre d'explication. En effet, il a été supposé que les prix égalent les valeurs. Or, on verra dans le livre Grand 3 que cette égalisation, même pour les prix moyens, ne se fait pas d'une manière aussi simple. Fin de la note de bas de page. Donc, le laboureur emploie donc plus de la moitié de sa journée de travail à la production d'une plus-value que diverses personnes se partagent entre elles sous divers prétextes.